Bonsoir. Nous allons commencer cette soirée par un petit film qui nous vient du nord, de Stockholm, très précisément. Est-ce qu'on peut avoir la projection ?
Cher Edith Hurd, étant retenu loin de Paris aujourd'hui, je ne peux pas prononcer la petite introduction à votre leçon inaugurale requise par la tradition du Collège de France. Alain Prochiens, qui fut le présentateur de votre candidature à l'Assemblée des professeurs, saura de toute façon, bien mieux que je ne pourrais le faire, décrire votre parcours et les points essentiels de votre travail de recherche. Et même si je ne suis pas physiquement présent, j'aurai le plaisir de suivre, en léger différé comme on dit, votre leçon sur le site du Collège de France. Je profiterai ainsi de cette possibilité qui est maintenant offerte à tous ceux qui ne vivent pas à Paris ou qui sont en voyage et veulent néanmoins se tenir au courant de l'actualité de notre institution. Je voudrais simplement ajouter deux remarques avant de laisser la parole à Alain Prochiens. Vous êtes anglaise et vous avez, après vos études à Cambridge, fait l'essentiel de votre carrière en France. Nous sommes heureux de constater que notre pays peut ainsi attirer les meilleurs chercheurs et chercheuses européens. En vous accueillant comme professeur, nous profitons de vos talents et de votre rayonnement pour accroître encore l'ouverture internationale du Collège de France. Ma seconde remarque est un peu liée à la précédente. Mes connaissances en épigénétique, votre spécialité, sont, comme vous vous en doutez, très superficielles. Je crois cependant que ce domaine de la génétique redonne une importance longtemps négligée au rôle de l'environnement sur l'expression des gènes et réintroduit dans la génétique une flexibilité plus grande qu'on ne l'a trop longtemps supposée. Pour un non-spécialiste, cela semble montrer que l'opposition entre Lamarck et Darwin n'est pas aussi simple qu'elle a été souvent présentée. Que ce que j'appellerais, faute de mieux, une réhabilitation partielle du lamarckisme nous vienne d'une scientifique élevée au pays de Darwin montre que la recherche, en biologie comme dans les autres domaines, est une aventure ouverte et non dogmatique.
Comme vous venez de le constater, les meilleurs d'entre nous peuvent se tromper. Rendons à César ce qui est à César. C'est bien notre collègue Christine Petit qui a proposé la candidature d'Edith Hurd à la chaire épigénétique et mémoire cellulaire. Nous sommes donc, chère Edith Hurd, redevables de votre présence ici et aujourd'hui parmi nous. Si notre administrateur m'a demandé de me substituer à lui, c'est au titre de responsable de l'Institut de biologie. Chère Edith Hurd, il n'y a pas grand-chose à ajouter à l'enregistrement de Serge Haroche et je me contenterai de rappeler qu'ayant défendu une thèse en cancérologie à Londres, vous avez, en 1990, traversé la Manche pour venir travailler à l'Institut Pasteur sous la direction de Philippe Avner. 10 ans plus tard, après un court séjour sabbatique à Cold Spring Harbor, vous avez rejoint l'Institut Curie comme récipiendaire d'un contrat à type Avenir. Vous êtes toujours à l'Institut Curie, où vous dirigez depuis quelques années déjà l'unité de biologie du développement. Votre carrière intellectuelle est marquée par un grand nombre de découvertes très importantes, issu de votre intérêt porté à l'inactivation d'un chromosome X chez les individus qui ont le privilège d'en avoir deux, bien entendu. Cette inactivation est de nature épigénétique, des gènes sont présents, mais silencieux. Et son étude vous a conduit à plonger dans un monde, celui aussi des empreintes génétiques, dont nous saisissons de mieux en mieux l'importance physiologique. Si je peux me permettre un choix personnel, parmi vos nombreux et élégants travaux, je dirais qu'un des aspects les plus frappants de cette inactivation du X est son caractère dynamique, voire momentanément réversible, et la diversité des mécanismes mis en jeu à travers les espèces que vous avez étudiées. Par-delà cet exemple inattendu de convergence évolutive, vos idées sont aussi à mettre en relation avec l'intérêt porté aujourd'hui aux ARN non codants, dans la régulation de l'expression des gènes, et surtout d'ensemble de gènes, à travers leur rôle dans la structure tridimensionnelle des chromosomes, un de vos récents objets d'étude. Je ne regarde, pour finir, de passer sous silence le rôle de ces ARN non codants dans l'instabilité des génomes, dont nous savons qu'elles jouent un rôle majeur dans l'évolution des espèces et la physiologie, donc aussi dans nombre de pathologies. Ces quelques mots ne suffisent certainement pas à rendre compte de l'apport qu'est le vôtre à notre compréhension des mécanismes épigénétiques, mais je suis certain que votre leçon inaugurale et toutes celles qui suivront nous renseigneront sur ce domaine qui éclaire d'un jour nouveau l'ensemble des sciences du vivant. Nous invite aussi, comme cela a été remarqué par Serge Haroche, à rouvrir des débats épistémologiques que l'on avait cru définitivement tranchés. Je vous donne la parole.
Monsieur l'administrateur en Suède, mes chers collègues et confrères, mes amis, my friends, agapimeni mou fili, la création d'une chaire épigénétique et mémoire cellulaire inaugure pour le Collège de France, comme pour moi, une aventure nouvelle. Je me sens d'abord hautement honorée d'en avoir été jugée digne et je remercie tous les professeurs de m'accueillir aujourd'hui au sein de leur prestigieuse assemblée. Il m'importe en particulier d'exprimer ma gratitude à Christine Petit, qui m'a accordé sa confiance et son soutien constant. Je dois également dire ma très sincère reconnaissance à Pierre Corvol, qui a défendu la création de cette chaire, et à Alain Prochian, pour ses conseils, son aide et son amitié. J'aurai l'occasion de citer beaucoup de mes maîtres et proches collègues au cours de cette leçon, mais je voudrais encore remercier plus particulièrement Vincent Collot pour avoir été ma source d'inspiration et mon soutien constant tout au long du chemin complexe que j'ai parcouru et qui m'amène aujourd'hui devant vous. Épigénétique et mémoire cellulaire. Comme nous le verrons dans un instant, cet intitulé désigne un champ d'investigation nouveau et très riche du domaine de la biologie, qui touche aussi bien au développement des organismes et aux variations normales ou pathologiques de celui-ci, notamment en lien avec l'environnement, que à l'hérédité et à l'évolution. Cette nouvelle chaire se situe donc à l'intersection des différentes disciplines que sont la génétique, la biologie du développement, l'écologie et l'évolution. Avant de décrire ce nouveau champ de recherche, commençons par rappeler la découverte, au milieu du siècle dernier, de cette réalité extraordinaire. Les gènes sont portés par le molécule d'ADN et par celle-ci seulement. Ils forment des unités d'information inscrites dans la séquence des quatre nucléotides, A, T, G et C, qui composent l'ADN. Cette information détermine, code les protéines, qui sont des molécules essentielles pour assurer les fonctions nécessaires à la vie. La structure de l'ADN de deux bras complémentaires porte en elle la clé de l'extrême fidélité avec laquelle l'information génétique est transmise au travers des divisions cellulaires. C'est ainsi que la myriade de cellules composant le corps humain possède toute la même séquence de 3 milliards de nucléotides à quelques très rares variations près. Se pose alors la question de ce qui distingue, pour ne s'arrêter qu'à deux exemples, un lymphocyte d'un neurone. La réponse est loin d'être parfaitement connue, mais nous savons depuis l'avènement de la biologie moléculaire que la régulation de l'expression génétique, autrement dit la régulation de la transcription des gènes en ARN messager ainsi que la traduction de ces derniers en protéines, est au cœur de la différenciation cellulaire. La question revient alors à se demander comment, au sein d'une cellule, seuls certains gènes sont exprimés et par quel mécanisme la cellule établit ce choix. En conserve-t-il éventuellement la mémoire alors que les conditions ayant précédé à celui-ci ont disparu, parfois depuis des temps très longs? Ou bien encore, le transmet-elle de façon clonale au travers de multiples divisions cellulaires? À quoi s'ajoute cette question tout aussi importante? Comment le processus de différenciation peut-il s'inverser? En effet, la fécondation, par exemple, met en jeu deux cellules très différenciées, la spermatozoïde et l'ovule, et produit presque immédiatement une cellule totipotente, le zygote, à partir duquel un enchaînement vertigineux de division et différenciation cellulaire est déclenché pour former le nouvel individu. À ces reprogrammations nécessaires à la vie répondent celles qui sont potentiellement porteuses de mort, comme dans le cancer, et contre lesquelles nous sommes encore le plus souvent démunis. D'autre part, les travaux du japonais Shinya Yamanaka, que le comité Nobel vient d'honorer, montrent qu'il est possible de reprogrammer des cellules différenciées en cellules souches pluripotentes, et ceci avec seulement 4 gènes. Cette reprogrammation forcée, qui ouvre un fantastique potentiel thérapeutique, celui de la médecine régénérative, reste néanmoins peu efficace, car il requiert de très nombreuses divisions cellulaires pour s'établir, ce qui fait que le processus va rarement jusqu'à terme. Pourquoi ? Quels sont les freins ? Les réponses à cette question sont à trouver dans l'organisation du génome au sein du noyau de nos cellules, lequel génome, comme chez tous les organismes eucaryotes, est associé à une myriade de protéines et de molécules d'ADN. Cette structure nucléoprotéique complexe, appelée chromatine, Emil Heinz l'a décrit en 1928 comme existant dans deux états, l'hétérochromatine, ou chromatine condensée, pauvre en gènes, et l'euchromatine, chromatine ouverte, décondensée, riche en gènes. Malgré cette distinction, la chromatine est longtemps perçue comme essentiellement une structure d'empaquetage du génome dans l'espace confiné du noyau. Il est vrai que chez l'homme, l'ADN du génome mesure au total près de 2 mètres de long, alors que le noyau ne fait que 10 microns de diamètre. Or, nous savons maintenant que la chromatine joue un rôle déterminant dans la modulation de l'accessibilité à l'information génétique et à la mémorisation des états d'expression des gènes à travers les divisions cellulaires. Intéressons-nous maintenant au mot épigénétique. L'adjectif comme le nom sont d'usage récent. Le premier apparaît, semble-t-il, au XIXe siècle, très certainement en référence à l'épigénèse, que je définirai dans un instant. L'origine du second est, quant à elle, précisément identifiée et remonte à 1942. Conrad Hal Waddington, scientifique et philosophe britannique, est le premier à formuler de façon explicite la nécessité d'établir les liens de causalité entre génotype et phénotype pour appréhender les processus du développement. En d'autres termes, il importe à ses yeux de rapprocher la génétique, la science de l'hérédité des caractères, science créée à la redécouverte des travaux de Mendel à l'aube du XXe siècle, de l'épigénèse, la théorie du développement par élaboration progressive des formes. Cette théorie, formulée initialement par Aristote, 4 siècles avant notre ère, en opposition à celle de la préformation, mais elle ne fut validée expérimentalement que bien des siècles plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, notamment grâce aux progrès en microscopie qui permirent enfin d'observer l'intérieur de l'œuf et les divisions cellulaires. Dans un court article, Waddington propose donc de fusionner les termes épigénèse et génétique pour désigner ce nouveau nom, l'étude des mécanismes par lesquels des gènes déterminent les caractères. Mais que savions-nous en 1942 de l'action des gènes? Rien, ou presque. Mais cela n'empêcha pas Waddington d'émettre l'hypothèse que le développement embryonnaire mobilise des réseaux changeants d'interactions entre gènes. Et à cet égard, il peut être considéré comme l'un des pionniers de la biologie systémique ou la biologie des systèmes. Avec un certain talent d'artiste, il illustre ses concepts par des croquis, son dessin du paysage épigénétique, métaphore du rôle de la régulation des gènes dans le développement, est resté célèbre dans le milieu de la biologie. Waddington publie énormément sur le sujet à partir de ses observations du développement embryonnaire et de ses analyses génétiques chez les oiseaux, la mouche ou d'autres espèces. Il observe et décrit aussi les conséquences des changements environnementaux ou génétiques sur le développement. Je reviendrai à de multiples reprises dans mes cours des prochaines années sur les travaux de la pensée de Waddington, dont l'importance reste à mes yeux essentielle et insuffisamment reconnue. Au début des années 1950, plusieurs découvertes majeures ouvrent la voie à l'analyse moléculaire des relations causales entre génotype et phénotype, l'approche prônée donc par Waddington. C'est notamment, comme je l'ai déjà mentionné, la révélation que les gènes sont portés par le molécule d'ADN, puis la découverte de la structure en double hélice de l'ADN qui marque l'avènement de la biologie moléculaire dans les années 60. Une étape conceptuelle essentielle est franchie avec les travaux de François Jacob et Jacques Monod sous la bactérie Escherichia coli et le phage lambda dans le laboratoire d'André Levoff à l'Institut Pasteur. Il propose pour la première fois un modèle de régulation de l'expression des gènes par interaction d'une région spécifique de l'ADN située à proximité avec une molécule régulatrice, ARN ou protéine. Jacob et Monod suggèrent qu'un tel modèle puisse même expliquer l'expression différentielle de gènes au cours du développement. Mais comment? En 1934, déjà, le généticien Thomas Hunt Morgan avait émis l'idée de l'existence de différentes batteries de gènes entrant en action les unes après les autres au fur et à mesure du développement de l'embryon. À la fin des années 40 et au début des années 50, la généticienne Barbara McClintock propose, à partir de ses observations sur le maïs, que l'activité des gènes est régulée au cours du développement par des éléments de contrôle, qu'elle nomme également transposons, parce qu'ils sont capables de se déplacer le long du génome. Elle propose que la mobilisation des transposons, dont nous savons dorénavant qu'ils sont, avec leur relique, la composante majoritaire du génome du maïs et de l'homme et de beaucoup d'autres organismes eucaryotes, fait partie intégrante du mécanisme de régulation de l'expression génétique. Si cette dernière hypothèse s'est révélée fausse, quoique pas tout à fait, comme des travaux récents sur le cerveau le suggèrent, ce que dit Barbara McClintock des éléments de contrôle dont elle vient en réalité de révéler l'existence est d'une remarquable justesse. Je la cite, « Nous savons maintenant que ces éléments de contrôle peuvent modifier l'activité des gènes de nombreuses façons différentes. Ils peuvent décider de la période où le gène sera actif dans le développement d'un tissu, mais ils peuvent aussi déterminer dans quelle cellule ce gène sera actif. » Sur la base de ces différents travaux, Britton et Davidson proposent en 1969 un modèle théorique de la régulation des gènes en réseau. Selon ce modèle, des gènes de régulation codent des facteurs qui, par diverses combinaisons, activent de façon concertée plusieurs ensembles de gènes non contigus lors de la différenciation cellulaire. Durant cette même période, l'embryologie expérimentale progresse elle-même à très grands pas. Parmi les nombreuses avancées majeures, je citerai les travaux de Robert Briggs et Thomas King en 1952 et ceux de John Gurdon en 1962, qui lui valurent d'être honoré cette année par le comité Nobel aux côtés de Shinya Yamanaka. Ces chercheurs démontrent que par une série d'expériences qui feront date, qu'il est possible de transplanter dans des ovocytes énucléés de grenouilles des noyaux de cellules différenciées et d'obtenir, de la sorte, le développement de nouvelles grenouilles. Ces résultats prouvaient que le matériel génétique est préservé lors de la différenciation cellulaire et que le développement embryonnaire résulte de changements de l'expression du génome plutôt que de son contenu. Sur un tout autre plan, je citerai également les travaux pionniers de Nicole Edouarin, qui fut titulaire de la chaire d'embryologie cellulaire et moléculaire au Collège de France. Elle met au point le système de Chimère-Caille-Poulet, tour de force expérimentale, qui permet pour la première fois de suivre le destin des cellules précises au cours du développement, et notamment des cellules de la crête neurale, structure transitoire de l'embryon des vertébrés. Avec son équipe, elle montre que ces cellules migrent pour donner naissance à une grande diversité de types cellulaires chez l'adulte. Mais malgré ces avancées, tant en biologie moléculaire qu'en embryologie expérimentale, les liens entre l'activité des gènes et le développement restaient désespérément nébuleux. De fait, ces deux disciplines se développaient en parallèle, sans véritable dialogue. L'épigénétique piétinait, et rares étaient les chercheurs qui utilisaient ce terme. Peut-être à juste titre, à l'époque, les relations causales entre génotype et phénotype n'ont commencé à être véritablement élucidées qu'au début des années 1980. Avec notamment l'identification par Christian Nusslein-Volrath et Eric Vichaus d'une série de mutants affectant la viabilité de l'embryon de la drosophile. Ces travaux faisaient suite à ceux du généticien Ed Lewis, qui, des années 40 à 80, réalisait l'analyse génétique systématique de mutants homéotiques, nommés ainsi parce qu'ils provoquaient la substitution d'un organe par un autre chez la mouche adulte. Deux exemples frappants sont les mutants Antennapedia, chez lesquels les antennes sont remplacées par des pattes, et Ultrabithorax, qui possèdent une seconde paire d'ailes en lieu et place des haltères. Nusslein-Volrath et Vichaus, en se focalisant sur l'étude des étapes précoces du développement de la mouche, abordaient directement et pour la première fois la logique des gènes contrôlant l'embryogenèse. Ces travaux, ainsi que ceux de Walter Gehring, Spiros Artavani-Sakonas et d'autres, marquent la naissance de la génétique du développement et sont rapidement suivis par la découverte que nombre des gènes identifiés chez la drosophile sont conservés chez les vertébrés et assurent des fonctions semblables. C'est alors aussi que le début d'une nouvelle discipline extrêmement féconde, la génétique évolutive du développement, ou l'EVO-DEVO. Au tournant des années 80-90, le terme épigénétique vit une renaissance, tout comme il acquiert un nouveau sens. Cette évolution sémantique fait suite à la prise de conscience que certains changements dans l'expression des gènes sont transmis au travers des divisions cellulaires, voire des générations dans certains cas, et cela sans que la séquence d'ADN soit elle-même changée. Ainsi, en 71, Scarano faisait valoir que ce sont des processus de modification plutôt que de mutation de la séquence d'ADN qui pourraient expliquer cette transmission stable d'états particuliers d'activité des gènes. De telles modifications ont été mises en évidence peu après, comme notamment la méthylation d'une des quatre bases de l'ADN, la cytosine. De plus, il apparaît très vite que cette méthylation est transmise au fil des divisions cellulaires. Effet notable, qu'elle est souvent associée à une répression stable de l'activité des gènes. En l'occurrence, c'est le généticien australien Robin Holliday qui propose en 1994 de redéfinir l'épigénétique comme l'étude des changements d'expression des gènes transmissibles au travers des divisions cellulaires, voire des générations sans changement de la séquence de l'ADN. On est donc venu à l'idée que des modifications dites épigénétiques constituent des signaux régulateurs transmissibles, voire héritables, qui s'ajoutent à l'information portée par la séquence de l'ADN. Ce concept rencontre alors un succès rapide. De fait, il offrait également une explication bienvenue à plusieurs observations disparates qui, depuis des années, laissaient les scientifiques perplexes, car elles ne suivaient pas les lois classiques de la génétique mendélienne. Les exemples de cette hérédité hétérodoxe ne manquaient pas. Citons pour commencer les bigarrures chez les végétaux. Barbara McClintock avait montré que certaines d'entre elles étaient liées à l'état d'activité des éléments transposables qu'elle venait d'identifier. Elle parle alors de changement de phase qui modifie la fréquence avec laquelle les transposons bougent ainsi que les patrons spatio-temporels d'expression des gènes situés dans leur voisinage de ces éléments mobiles. Suivant régulés au cours du développement, les changements de phase sont transmis de façon clonale et peuvent également être hérités sur plusieurs générations. Nous savons dorénavant, grâce notamment aux travaux de Nina Fedorov et Rob Martinson, qu'ils correspondent au passage d'un état méthylé des cytosines à un état non méthylé de ces transposons indiscriminés et vice-versa. Autre exemple, chez les mammifères, cette fois-ci, l'inactivation du chromosome X. En 1961, Mary Lyon, spécialiste de la génétique de la souris, fait cette étonnante observation. Les femelles des mammifères qui portent deux chromosomes X présentent des phénotypes insolites en mosaïque de la couleur de leur pelage, contrairement aux mâles qui sont porteurs d'un seul chromosome X et d'un chromosome Y. Un siècle plus tôt, Charles Darwin avait déjà noté cet étrange phénomène dans son ouvrage de l'origine des espèces. Quoi de plus singulier, écrit-il, que la couleur du pelage en écailles de tortue associée au sexe féminin chez le chat. D'où viennent ces phénotypes en mosaïque, propres aux femelles de mammifères? Mary Lyon propose qu'ils résultent de l'inactivation aléatoire d'un des deux chromosomes X dans chacune des cellules de l'embryon précoce, suivi du maintien stable au cours des divisions cellulaires. Dès lors que les deux chromosomes X portent des formes différentes de même gène, contrôlant par exemple la couleur de pelage, l'inactivation aléatoire de l'un ou de l'autre de ces deux chromosomes X et l'expansion clonale des cellules qui s'ensuit, résulte chez l'individu adulte en une juxtaposition de plages cellulaires, chacune de phénotypes distincts. Elle émet aussi l'hypothèse, confirmée depuis, que la chromatine sexuelle, identifiée par le cytologiste Barr dans les noyaux des cellules femelles, correspond au X inactif. En 1975, Art Riggs propose que l'inactivation du X et sa transmission stable au travers des divisions cellulaires reposent, au moins en partie, sur la méthylation de l'ADN. Cette hypothèse est validée par l'observation que les régions régulatrices situées à proximité des gènes sont en effet méthylées sur le X inactif. D'autres chercheurs découvrent par la suite que cette méthylation est fidèlement réapposée après réplication de l'ADN à l'aide d'enzymes spécifiques, les ADN méthyltransférases, dites de maintenance. Mieux, ces activités enzymatiques peuvent être bloquées par des drogues et il se produit alors une réactivation des gènes portés par le chromosome X inactif. Un second exemple d'hérédité inattendue chez les mammifères, l'empreinte parentale. En 1986, deux embryologistes, Davor Solter et Azim Sourani, réalisent chacun des expériences pionnières de transplantation nucléaire dans les ovocytes de souris, avec l'objectif d'obtenir des embryons porteurs de deux génomes d'origine maternelle ou deux génomes d'origine paternelle, des androgenotes. Dans les deux cas, ils observent une létalité embryonnaire précoce, et cela alors même que les génomes maternels et paternels portent la même information génétique. Là encore, il est rapidement établi que la méthylation de l'ADN joue un rôle essentiel dans la non-équivalence fonctionnelle des génomes d'origine maternelle et paternelle. Cette méthylation différentielle, établie dans la lignée germinale des parents, est transmise à leur progéniture qui la maintient. Ces deux exemples frappants illustrent un autre point essentiel des processus de mémorisation épigénétique en lien avec le développement. En effet, l'inactivation du X, comme l'empreinte parentale, sont effacées à chaque génération. Cette reprogrammation, ou tabula rasa, est indispensable pour que puisse démarrer un nouveau cycle de vie. Si la méthylation de l'ADN a été le premier mécanisme moléculaire associé à la nouvelle définition de l'épigénétique proposée par Robin Holliday, un autre système de transmission stable d'état différentiel d'activité des gènes commençait à être révélé chez la mouche vinaigre, qui ne méthyle pas son ADN. Il repose sur deux groupes de protéines régulatrices, polycom et trithorax, appelés ainsi en lien avec les phénotypes aberrants observés dans les embryons mutés pour les gènes correspondants. Les approches génétiques puis moléculaires ont montré que polycom et trithorax agissent de façon antagoniste sur la chromatine pour assurer non pas l'établissement des patrons d'expression des gènes homéotiques le long de l'axe antéro-postérieur de la mouche dans les tout premiers stades du développement embryonnaire, mais le maintien de ces patrons jusque chez l'adulte. En d'autres termes, les complexes polycom et trithorax servent à mémoriser des états d'activité des gènes au travers des divisions cellulaires. De façon remarquable, ces complexes protéiques sont en grande partie conservés chez la plupart des organismes multicellulaires, y compris les plantes qui ont évolué à partir de cellules uniques indépendamment des animaux. Ainsi donc, ce mode de régulation épigénétique serait à l'origine même de la multicellularité. C'est pendant cette période, c'est en 90, que je rejoignais comme post-doctorante l'équipe de Philippe Avner à l'Institut Pasteur, généticien éminent de la souris qui, avec Jean-Louis Mandel, titulaire de la chaire de génétique humaine, venait d'identifier, de cartographier l'homologue murin du gène responsable de la myopathie de Duchenne. Philippe Avner est également fasciné par le processus d'inactivation du chromosome X. En tant que généticien, l'intéressait tout particulièrement le fait que l'initiation de ce processus soit contrôlée par une région précise du chromosome. Cette région, appelée centre d'inactivation, avait été identifiée génétiquement dès les années 60 chez la souris et l'homme au moyen de translocations et délétions touchant le chromosome X. Ces travaux établirent en particulier que le centre d'inactivation fonctionne sur les portions du chromosome autres que le X présent dans les translocations. Par ailleurs, au milieu des années 80, Martin Evans et ses collègues isolaient les premières cellules souches embryonnaires. Sahela Ruston, ancienne élève de Mary Line, montrait ensuite que la différenciation des cellules ES femelles induisait l'inactivation de l'un des deux chromosomes X. Excusez-moi. Cette découverte ouvrait donc la possibilité d'étudier ce processus in vitro plutôt que in vivo, ce qui était un avantage considérable car l'inactivation aléatoire de l'un des deux X a lieu au moment de l'implantation de l'embryon dans l'utérus, le stade le plus difficile d'accès pour des expérimentations. C'est sur la base de ces différentes avancées que Philippe Avner me proposa d'utiliser les cellules souches embryonnaires pour tenter d'identifier, par des approches de transgénèse, la région du chromosome X responsable de l'initiation de l'inactivation. Spécifiquement, nous voulions déterminer si l'insertion des transgènes sur d'autres chromosomes que le X pouvait conduire à leur inactivation, et s'il était possible de leurrer des cellules ES mâles, c'est-à-dire d'inactiver le seul chromosome X qu'elles possèdent. En d'autres termes, nous voulions savoir si des transgènes pouvaient fonctionner comme des centres d'inactivation ectopiques. Le défi est né dans la taille de la région candidate, plusieurs millions de nucléotides qui revenaient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais la chance voulut que l'aiguille fût trouvée avant que la botte ne soit complètement désintégrée. En effet, quelques mois à peine après mon arrivée à l'Institut Pasteur, un gène très inhabituel fut découvert tout à fait fortuitement par Hunt Willard et Andrea Palabio sous le chromosome X chez l'homme, dans la région même dans laquelle se trouvent les gènes de la position de ceux-ci. Excusez-moi. Ce gène fut nommé XIST, pour X Inactive Specific Transcript, en raison de son expression exclusivement à partir du X inactif et de son caractère non codant. Les équipes de Philippe Avner et Sahel Rustin isolèrent rapidement après l'homologue Murin. Outre son profil d'expression inattendu, XIST présentait une autre propriété remarquable, son ARN semblait décorer le chromosome X inactif. Ce qui suggérait un rôle clé du gène XIST et de son transcrit dans le processus d'inactivation. J'ai focalisé alors mes recherches sur ce gène. Des expériences de délétion de XIST réalisées par d'autres équipes montrèrent qu'il est nécessaire à l'inactivation du chromosome X sur lequel il est porté. J'ai choisi pour ma part de déterminer s'il était suffisant. Pour cela, j'insérais dans le génome des cellules ES et de souris, des transgènes contenant XIST ainsi que de grandes régions situées de part et d'autre du gène. Je montrais que malgré leur grande taille, plusieurs centaines de kilobases, ces transgènes ne parvenaient pas à déclencher correctement le processus d'inactivation et qu'ils ne contenaient donc pas l'ensemble des informations requises pour le centre d'inactivation ou pour la régulation du gène XIST. Ce résultat négatif, que Philippe Avner défendit avec force à mes côtés, et je le remercie, se heurta à une résistance de la communauté scientifique. Il allait à l'encontre du dogme selon lequel XIST suffisait à induire l'inactivation du X. Mais il m'obligea donc à explorer de nouvelles hypothèses. Et j'ai trouvé de l'inspiration dans une série de travaux publiés dans les années 90, notamment par John Sedat, Steve Hennikoff, Amanda Fischer et d'autres, qui montraient comment le contexte chromatinien dans lequel se trouvent les gènes et la position de ceux-ci dans le noyau pouvait influencer de façon significative leur expression. Ainsi donc, il devenait de plus en plus évident que le génome n'est pas une simple séquence linéaire d'informations empaquetées d'une façon aléatoire dans le noyau. Une telle réalisation était particulièrement pertinente dans le contexte de l'inactivation du X, puisque ce processus implique le traitement différentiel dans un même noyau de deux chromosomes identiques en séquence. De fait, Cummings avait déjà proposé en 1968 que le confinement d'un des deux chromosomes X à la périphérie du noyau pouvait expliquer le traitement différentiel des deux chromosomes. Il s'inspirait en cela du modèle du réplicant bactérien de Jacob Brenner et Cousin, découvert en 1963, dans lequel la réplication du chromosome bactérien est initiée en un site spécifique, le réplicateur, attaché à un endroit précis de la membrane cellulaire. Sur la base de ces considérations, je souhaitais, pour ma part, explorer la possibilité que le centre d'inactivation possède, à distance du gène XIST, des séquences impliquées dans la formation de structures chromatiniennes particulières ou dans le confinement du locus en un endroit spécifique du noyau. La microscopie et les approches de biologie cellulaire avaient accompli de formidables progrès dans les années 90. Avec une précision sans précédent, il était désormais possible, à l'aide de sondes fluorescentes, de visualiser l'expression et la position des gènes dans le noyau. Afin d'appliquer ces nouvelles méthodes à l'inactivation du X, je décidai d'effectuer une année sabbatique entre 2000 et 2001 au Cold Spring Harbor Laboratory, près de New York, dans le laboratoire de David Spector, qui est un des grands spécialistes de l'étude de l'organisation nucléaire. J'ai eu la chance d'arriver dans ce haut lieu de la biologie moléculaire à un moment qui était un tournant pour la recherche en épigénétique. Il y a eu d'abord les travaux de Rob Martinson et ses collègues au Cold Spring Harbor, justement, qui venaient de découvrir l'importance de la liaison entre la chromatine et de petites molécules d'ARN, un processus nommé interférence ARN, dans la formation et la stabilité de l'hétérochromatine. Découverte majeure, si l'on est, puisque cette interaction entre petits ARN et chromatine s'est révélée constituer un élément clé de la reprogrammation du génome lors de la fécondation chez la plupart des espèces. Il y a eu ensuite la possibilité d'utiliser des anticorps extraordinairement spécifiques qui permettaient de reconnaître tout un jeu de modifications chimiques subtiles des histones, les composants protéiques majeurs de la chromatine. Cette approche marqua en l'occurrence un tournant dans la mesure où elle permettait l'identification de différents états de la chromatine et révélait combien celle-ci était riche en informations potentielles. C'est effectivement en 2001 que l'hypothèse d'un code d'histone analogue au code génétique était proposée indépendamment par Devallis et Brian Turner. Selon ces chercheurs, des combinaisons d'histones modifiées forment des signaux qui recrutent des facteurs spécifiques. En se liant à la chromatine, ces facteurs modulent l'activité des gènes et d'autres fonctions du génome. En outre, ces histones modifiées pourraient constituer des marques épigénétiques transmettant des changements de caractère héritables, une hypothèse aujourd'hui qui est toujours en débat. Pendant mon séjour à Cold Spring Harbor Laboratory, ce séjour me permit de montrer, en collaboration avec Dave Allis et David Spector, que les chromosomes X actifs et inactifs se distinguent par plusieurs modifications d'histones, ce qui laissait effectivement entrevoir la possibilité d'une mémoire épigénétique reposant non seulement sur des méthylations de l'ADN, mais aussi sur des modifications chimiques des histones et d'autres protéines qui leur sont associées. Aujourd'hui encore, les chercheurs sont en quête de protéines écrivaines qui établissent ces modifications chimiques des histones et des protéines lectrices qui se lient aux histones modifiées. En 2001, au demeurant, plusieurs groupes découvrent déjà que les protéines du groupe Polycom forment un système de protéines écrivain-lecteur qui contribue au maintien de l'état silencieux du chromosome X. Notons que cette nouvelle ère, marquée par l'exploration de la chromatine dans ses variations intimes, a conduit à un nouvel usage du terme épigénétique. C'est Adrian Bird qui, en 2007, formalise ce second changement sémantique depuis Wannington. L'épigénétique peut être considérée comme l'étude des adaptations structurales des régions chromosomiques qui permettent d'enregistrer, de marquer ou de perpétuer des états modifiés d'activité des gènes. Cette définition va donc au-delà du concept plus strict d'un changement héritable des fonctions des gènes proposés par Holliday. Armée des outils et approches que j'avais développés à Cold Spring Harbor, je monte en 2001 ma propre équipe à l'Institut Curie à Paris pour continuer l'exploration du processus d'inactivation du chromosome X. L'Institut Curie offrait un environnement idéal pour cette nouvelle étape. En effet, je rejoignais l'unité dynamique nucléaire et plasticité du génome dirigée par Geneviève Al-Muzni, certainement l'une des plus grandes spécialistes de l'étude de la chromatine. Je voudrais dire ici combien Geneviève m'a apporté et la remercier pour son énergie communicative comme pour son soutien indéfectible. Grâce à la direction visionnaire de Daniel Louva, directeur de la section de recherche de Curie, l'Institut offrait aussi l'un des rares lieux en France où biologie, chimie, physique et médecine étaient réunis avec autant de réussite et bonheur. Mon arrivée à l'Institut Curie a coïncidé avec le développement des techniques de microscopie permettant d'explorer à l'échelle de la cellule unique l'activité des gènes en relation avec l'état de la chromatine et le positionnement nucléaire. Grâce à ces techniques, nous pouvions dorénavant suivre les différentes étapes de l'inactivation du X avec une formidable précision, et cela dans des cellules vivantes. Dès lors, nous pouvions décrypter les mécanismes responsables du traitement différentiel des deux chromosomes X dans le même noyau et analyser la dynamique des changements chromatiniens sur différentes échelles du temps, au cours du cycle cellulaire, de l'embryogenèse et tout au long de la vie d'un individu, et tant dans des situations normales et pathologiques comme le cancer que chez la souris et dans d'autres espèces. Notre premier objectif était de déterminer si la localisation nucléaire du centre d'inactivation jouait un rôle quelconque dans sa fonction. Nous avons montré tout d'abord que les deux centres d'inactivation sont situés à proximité, ne sont pas situés de l'enveloppe, pardon, que les deux centres d'inactivation sont situés à proximité de l'enveloppe nucléaire, ce qui allait à l'encontre de l'hypothèse émise par Cummings d'une localisation différentielle. Cependant, nos résultats indiquaient aussi que juste avant l'inactivation d'un des deux chromosomes X, les deux centres se rapprochaient brièvement l'un de l'autre, une observation totalement inattendue et nouvelle, car rien d'équivalent n'avait jamais été décrit auparavant au cours du développement chez les mammifères. Nous avons aussi entrepris une collaboration particulièrement heureuse avec le groupe de Job Decker aux États-Unis qui venait de développer le chromosome conformation capture, une technique permettant d'observer de façon quantifiable les interactions à longue distance se produisant au sein d'un chromosome. C'est ainsi que nous avons pu montrer que le centre d'inactivation était organisé en une succession de domaines d'interaction contigus les uns aux autres et chacun couvrant plusieurs centaines de milliers de nucléotides. De façon notable, l'étendue de domaines d'interaction contenant XIST indiquait que des éléments de contrôle de ce gène étaient situés à très longue distance de celui-ci. Ce résultat fournissait enfin l'explication moléculaire à l'absence de fonction de neutrons gènes contenant XIST. Il manquait à tous une partie du domaine d'interaction et des éléments potentiels régulateurs. De façon plus générale, cette étude montre que l'organisation des chromosomes en une succession de domaines d'interaction pourrait sous-tendre une partie importante de la régulation des gènes. Le rôle de l'insaisissable molécule d'ARN XIST, produit par le gène XIST, nous intriguait beaucoup aussi. Toujours grâce à nos approches de microscopie, nous avons pu montrer que dans toutes les toutes premières phases de l'inactivation du X, cet ARN XIST crée dans le noyau un compartiment dans lequel se retrouvent les gènes du chromosome X dès le moment de leur inactivation. En analysant attentivement ce compartiment, nous avons découvert qu'il était principalement constitué d'ADN répété, et notamment d'une classe de transposons particulière, les rétroéléments LINE, L1. Or, Mary Lyon avait proposé en 1998 que ces séquences LINE permettent à l'inactivation de se propager le long du chromosome X, certainement. Nos études confortent cette hypothèse et suggèrent également que les éléments L1 aident les gènes du chromosome X à entrer dans ce compartiment silencieux, favorisant peut-être leur inactivation. Nos observations sont donc une nouvelle illustration des travaux visionnaires de Barbara McClintock sur le rôle des transposons dans la régulation de l'activité des gènes et de leur inactivité. L'examen attentif des différentes étapes de l'inactivation du X dans des embryons précoces nous a par ailleurs réservé plusieurs surprises de taille. Chez la souris, nous avons découvert, avec d'autres, une dynamique totalement inattendue. L'inactivation est très précoce et soumise à l'empreinte parentale, chose déjà mise en évidence par Tagaki et d'autres, puisqu'elle concerne exclusivement le chromosome X d'origine paternelle. Si dans les tissus extra-embryonnaires, cette inactivation perdure, ce n'est pas le cas dans la masse interne cellulaire, qui donnera l'embryon proprement dit. De fait, le X paternel est réactivé et s'ensuit immédiatement l'inactivation en juste quelques divisions cellulaires, cette fois-ci aléatoires, de l'un ou de l'autre des deux chromosomes X. Ce processus extraordinairement dynamique donnait un premier aperçu des événements de reprogrammation concernant tout le génome au stade précoce de l'embryogenèse. Ces stades sont l'équivalent des cellules souches embryonnaires ou des cellules souches induites pluripotentes, les fameuses cellules IPS que j'ai déjà mentionnées. Ces résultats révélaient aussi, pour la première fois, la plasticité des processus épigénétiques eux-mêmes au cours du développement. Nous nous sommes évidemment demandé quelle pouvait être la raison d'être d'une telle dynamique qui voit l'inactivation établie une première fois, puis effacée, avant d'être établie à nouveau quelques divisions cellulaires plus tard. Suivons le prétexte de Théodosius Dobzhansky, ce grand théoricien de la génétique évolutive qui veut que rien en biologie ne fait sens sauf à la lumière de l'évolution, nous avons entrepris une étude comparative de l'inactivation du chromosome X entre le souris, le lapin et l'humain, et l'homme, avec des collaborateurs, Véronique Duranton, et Jean-Paul Renard et Catherine Patra. Ce travail révéla des différences marquées de tempo entre ces trois espèces, notamment une induction plus tardif et non soumise à l'empreinte parentale chez le lapin et l'homme, ainsi qu'une absence de réactivation dans la masse cellulaire interne. Pourquoi tant de diversité ? Les souris ont une particularité. Dans cette espèce, le génome de l'embryon est activé très tôt, dès la stade d'une ou deux cellules. Le développement de la souris est aussi très rapide comparé à celui d'autres mammifères. Cette rapidité pourrait donc imposer des dispositions de des dispositifs très précis de régulation génique, comme l'empreinte parentale, et un besoin de reprogrammation avant d'entamer le développement de l'embryon proprement dit à partir de la masse interne. Mais une fois établi dans l'embryon, l'inactivation est en tout cas remarquablement stable à l'échelle du chromosome. D'où vient cette stabilité ? Probablement de l'accumulation de différentes couches épigénétiques, la méthylation de l'ADN, les protéines du groupe polycom, la compartimentation nucléaire, et bien d'autres encore qui semblent assurent un véritable verrouillage de l'inactivation. Mais il arrive que l'inactivation du chromosome X montre des failles. Nos travaux, effectués en collaboration avec le Dr Anne Salomon de l'Institut Curie, indiquent que certains cancers du sein sont associés à une instabilité de l'inactivation du chromosome X. Comme vous voyez ici, l'ARN de Xist et les marques épigénétiques, les marques de la chromatine, sont bien associées au niveau du X inactif. Dans des cellules tumorales, il y a une dispersion de l'ARN Xist en rouge, et les marques de la chromatine semblent être associées avec d'autres régions du génome. D'autres interrogations restent en suspens, et notamment celles concernant la réactivation du chromosome X, normal cette fois-ci, dans la lignée germinale. Comment s'opère cette réversion ? Toutes les marques épigénétiques disparaissent-elles passivement lors de la réplication de l'ADN, ou bien sont-elles effacées sous l'action d'enzymes spécifiques remodelant la chromatine ? J'aurais aimé pouvoir présenter d'autres travaux réalisés par les membres de mon équipe, mais le temps me manque. Permettez-moi, néanmoins, de prendre un instant pour leur dire ma profonde gratitude. La science que nous faisons est par essence un travail d'équipe, et j'ai l'immense privilège d'être entourée au quotidien par des chercheurs brillants, acharnés, curieux, généreux et intelligents. Pour conclure sur l'inactivation du X, je voudrais aborder en quelques mots la question essentielle du rôle de ce processus chez les mammifères. En effet, des processus analogues affectant les chromosomes sexuels sont observés chez très nombreuses autres espèces, comme la drosophile, qui cette fois double l'expression des gènes portés par le chromosome X chez le mâle, ou encore le nématode, qui réduit de moitié l'expression des gènes sur chacun des deux chromosomes X chez l'hermaphrodite. Or, l'ensemble de ces observations suggère un rôle essentiel de ces processus dans la compensation des doses des chromosomes X entre mâles et femelles. De fait, nous savons que des déséquilibres de doses peuvent avoir des conséquences graves, comme l'illustre de façon dramatique la trisomie 21 chez l'homme. Cette compensation de doses donne matière à réflexion. Le chromosome X porte plus de 1000 gènes, alors que le chromosome 21 n'en contient qu'environ 250. Pour quels gènes la compensation est-elle indispensable ? L'est-elle à tous les stades du développement ? Et dans quelles cellules ? Certains gènes, à l'évidence, doivent impérativement être réduits au silence. C'est le cas du gène MSCP2, par exemple. Chez les femelles, son absence conduit au syndrome de Rett, un type d'autisme sévère. Chez les mâles, son absence est létale au stade embryonnaire, mais sa duplication entraîne des retards mentaux sévères aussi. Pour d'autres gènes, cependant, la dose ne semble pas avoir autant d'importance, mais selon les espèces de mammifères, jusqu'à 15% des gènes liés au chromosome X peuvent ainsi échapper à l'inactivation. Enfin, pour certains gènes, une double dose confère un avantage capital. C'est peut-être le cas pour le gène ATRX, par exemple, qui échappe à l'inactivation précisément parce qu'il code une protéine intervenant dans le remodelage de la chromatine et que ce remodelage, à son tour, participe à l'inactivation du X dans certains lignages cellulaires. Tous ces travaux en attestent. Le chromosome X n'est pas une entité homogène soumise à des lois univoques. Au contraire, il compose, comme les autres chromosomes, une assemblée disparate de gènes, chacun doté d'un rôle précis et d'une expression spécifique. Cette variabilité entre gènes et pour chaque gène entre lignages cellulaires indique donc que les femelles de mammifères ne sont pas seulement des mosaïques quant à l'expression respective de leurs deux chromosomes X, elles sont aussi mosaïques quant au patron de l'expression de nombreux gènes liés à l'X. Cela leur confère-t-il un avantage par rapport aux mâles qui n'ont qu'un seul X ? À l'évidence, les mâles présentent une vulnérabilité immédiate à toute mutation d'un gène lié à l'X. les travaux de Jean-Louis Mandel, Christine Petit et d'autres sur les syndromes liés à l'X en sont des illustrations frappantes. Mais au-delà, le répertoire élargi de phénotypes cellulaires que donnent les gènes liés à l'X chez les femelles leur procure-t-il un avantage quelconque? Une telle question est en soi neutre, mais je ne peux résister au plaisir, un brin provocateur, de conseiller la lecture du poème de Rudyard Kipling, « The female of the species is more deadly than the male ». Il est maintenant temps de conclure. Rappelons que l'intitulé de cette chaire est double et comporte l'expression « mémoire cellulaire ». En effet, la notion de maintenance d'un état cellulaire vaut tant au travers des divisions cellulaires qu'au fil du temps. Par ailleurs, cette mémoire cellulaire concerne aussi bien l'activité des gènes que le repliement des protéines ou la structure cellulaire. J'aurai à cœur de développer ces différents aspects dans mes cours. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec l'épigénétique? Depuis une dizaine d'années, l'épigénétique exerce une fascination croissante sur le public. Le séquençage du génome humain complet, au début des années 2000, a joué un rôle catalyseur. Cet exploit a marqué pour l'humanité une étape aussi excitante que terrifiante en ce qui nous confronte à la réalité et peut-être à la fatalité de notre patrimoine génétique. Il ouvre la possibilité que tous nos caractères, nos forces, nos faiblesses, nos prédispositions à des maladies soient lus dans le livre de notre génome, avec toutes les questions éthiques et philosophiques que cela soulève. L'épigénétique crée au fond l'espoir que nous sommes plus que la séquence de nos gènes. Cette idée est sans doute à l'origine de la formidable explosion d'intérêt que suscite ce champ d'études dans les médias et le grand public. Pouvons-nous échapper à la fatalité de notre destin génétique? Ce que nous mangeons, l'air que nous respirons et même les émotions que nous éprouvons peuvent-ils influencer non seulement l'expression de nos gènes, mais aussi celle de nos enfants et petits-enfants? Il est certain que notre environnement modifie l'expression de nos gènes. Et qui peut parfois conduire à des changements stables de nos caractères, et même, dans certains cas, à l'apparition de maladies. Mais dans quelle mesure ces changements peuvent-ils être transmis d'une génération à l'autre? C'est une autre affaire. Ces dernières années, on a découvert l'existence d'une hérédité de certains caractères qui n'est pas fondée sur des changements de la séquence de l'ADN. Transmise au fil des générations, cette hérédité semble avoir une importance particulière dans le règne végétal, mais a été aussi proposée comme une explication possible de l'hérédité manquante dans les études de génétique d'association pangénomique, les GWAS, chez l'homme, qui ont explosé ces derniers temps. Des projets, donc IWAS, ont même déjà été lancés visant à identifier à l'échelle du génome cette éventuelle composante épigénétique de la susceptibilité à diverses maladies humaines. Mais quelle est l'importance du rôle de l'environnement dans cette hérédité épigénétique? Cette question est loin d'être résolue, malgré les effets d'annonce qui ont conduit à un étonnant regain d'intérêt pour la thèse de Lamarck de l'héritabilité des caractères acquis. Autrement dit, c'est l'idée selon laquelle des caractères acquis durant la vie de l'individu, sous l'effet des changements de l'environnement, peuvent être transmis aux générations suivantes. L'interrogation ultime est celle de l'importance des processus épigénétiques dans l'évolution. Comme l'a dit Luther Burbank, l'hérédité n'est rien d'autre qu'une mémoire de l'environnement. Dès lors, quelle est la place dans les processus évolutifs des changements épigénétiques sporadiques ou induits par l'environnement qui sont transmis sur plusieurs générations? La communauté scientifique reste très partagée et une question centrale demeure. Les états épigénétiques sont-ils transmis sur un nombre suffisant de générations pour donner prise à la sélection naturelle? La popularité de l'épigénétique liée à l'intérêt croissant que lui portent les médias n'est pas sans danger. Elle mélange les données scientifiques avérées aux informations les plus fantaisistes. Cette confusion peut être très préjudiciable au progrès des connaissances, mais fort heureusement, les recherches dans ce domaine progressent à un rythme saisissant. Elles devraient permettre de clarifier ces notions dans les années à venir. Cette chaire me confère la responsabilité de communiquer de façon claire et précise sur les recherches et les concepts qui font ce champ scientifique émergent. Cela tout en montrant les espoirs et les craintes que peuvent susciter ces études. Le défi est d'autant plus grand que, comme nous l'avons vu, le sens du terme épigénétique ne cesse d'évoluer. Je vous remercie.